de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravie de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministère de la main-d'œuvre a déclaré que l'Indonésie avait remporté la troisième place à l'événement World Skills Asia 2023. Le KPU garantit que les données des électeurs sont à l'abri des fuites du système. La Banque d'Indonésie et la Banque centrale des Émirats arabes unis élargissent leur coopération. L'Indonésie a participé à l'événement Wounded Homeland Games en Syrie. La Corée du Sud a annoncé avoir lancé son premier satellite espion. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le ministère de la main-d'œuvre a déclaré que l'Indonésie était classée 3e au 2e concours World Skills Asia Abu Dhabi 2023. Le secrétaire général du ministère de la main-d'œuvre, Anwar Sanusi, dans sa déclaration à Jakarta samedi, a transmis ses plus hautes salutations à tous les délégués qui sont rentrés sains et saufs, en particulier aux concurrents et aux experts qui ont lutté pour offrir le meilleur à la nation et à l'État. Pendant ce temps, exécuteur des tâches du secrétaire général de la Direction générale de la formation professionnelle et du développement de la productivité du ministère de la main-d'œuvre, Muhammad Ali, a déclaré que la délégation indonésienne occupait la troisième place avec un total de 9 médailles, dont 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze et une médaille de diplôme ou médaille d'excellence. Idham Holik, membre de la Commission électorale générale indonésienne, ou un Indonésien abrégé en KPU, a déclaré que le processus d'impression de copies de la liste électorale permanente de 2024 à des fonds de vote n'a pas été perturbé par la question des fuites présumées de données sur les électeurs dans le système de KPU. Dans une discussion en ligne surveillée depuis Jakarta samedi, Idham Holik a déclaré concernant la prétendue fuite de données sur les électeurs, il ne pouvait pas encore confirmer les détails concernant la fuite, y compris si elle était liée aux élections simultanées de 2024 ou aux données des électeurs de l'élection précédente. Il n'a pas non plus pu confirmer quand les résultats de la recherche ou les informations numériques médico-légales seront présentés au public. Pendant ce temps, vendredi, le porte-parole de l'Agence nationale de cybersécurité et de code, ou un Indonésien abrégé en BSSN, Ariandi Putra à Jakarta, a déclaré que BSSN avait effectué des analyses médico-légales numériques comme étape de traitement dans le cas présumé de fuite de données vécue par le KPU. BSSN a fait cela pour trouver la cause de la prétendue fuite de données. La Banque d'Indonésie, ou BI, et la Banque centrale des Émirats arabes unis, ou abrégée en CBUAE, ont convenu d'élargir leur coopération liée au système bancaire central et à la finance islamique. L'expansion de la coopération a été réalisée grâce à la signature d'un protocole d'accord entre le gouverneur de la BI, Peri Warjio, et le gouverneur de la CBUAE, Khaled Mohamed Balama, le 29 novembre 2023. Le gouverneur de la BI, Peri Warjio, dans une déclaration officielle à Jakarta samedi, a déclaré que ce protocole d'accord montre l'engagement des deux banques centrales dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que dans le respect des recommandations du groupe d'action financière, ou abrégé en GAFI. La coopération entre les deux banques centrales constitue un élément important des résultats de la rencontre entre le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, et le président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le 1er décembre 2023, en marge de la COP28 à Dubaï, Émirats Arabes Unis. Par ce protocole d'accord, les deux banques centrales s'engagent à renforcer la coopération à travers un cadre plus structuré et systématique dans divers domaines de la banque centrale, tels que la stabilité monétaire, macroprudentielle, financière, les systèmes de paiement et l'innovation financière numérique, ainsi que divers domaines de l'économie et de la finance islamique. L'équipe indonésienne, composée de 16 athlètes et officiels, a officiellement participé à la 3e édition de One Day Homeland Games qui s'est tenue à Damas, en Syrie, du 3 au 7 décembre. Cet événement a réuni 5 pays, à savoir le Yémen, l'Iran, la Russie, l'Indonésie et la Syrie. Le contingent indonésien concourra dans 5 sports, à savoir la natation, l'athlétisme, le tennis de table, l'haltérophilie et le badminton. Le chef de mission du contingent indonésien, Heri Sranto, a déclaré dimanche, dans un communiqué officiel du Comité paralympique indonésien, que le départ des athlètes vers la Syrie apportait un certain nombre de grandes missions en termes de valeurs sportives. Selon lui, outre la compétition dans ces sports, l'équipe indonésienne travaillera également avec des entraîneurs pour échanger des expériences dans le domaine sportif. La PN indonésienne estime qu'avec les bonnes réalisations de l'Indonésie dans un certain nombre d'événements prestigieux, tels que le titre de champion du classement général des Jeux paralympiques de l'ASEAN 2023, le Cambodge et la 6e place aux Jeux paralympiques asiatiques de Hangzhou de 2022, on espère qu'elle sera en mesure de fournir des encouragements et sources d'inspiration pour les athlètes handicapés d'autres pays, y compris la Syrie. La Corée du Sud a annoncé samedi avoir lancé son premier satellite espion, une semaine seulement après qu'un satellite nord-coréen ait été placé avec succès en orbite pour la première fois. Le satellite sud-coréen est également en orbite après avoir été lancé à l'aide d'un fusée SpaceX Falcon 9 depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie vendredi à 10h19 heure locale. Cité samedi par Antara à Jakarta, le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que le satellite avait réussi à communiquer avec des stations au sol à l'étranger. Le satellite espion est le premier des 5 que la Corée du Sud lancera en orbite à la fin de 2025 à l'aide d'une fusée américaine. Le premier satellite devrait être pleinement opérationnel en 4 à 6 mois. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le navire de la République d'Indonésie, Dr. Ajiman, s'assure qu'il est prêt à naviguer à Gaza ». Commandant du navire de la République d'Indonésie, ou KRI, Dr. Ajiman Wedioningrat 992, le colonel marine Bayu Dwi Wicaksono a assuré que le navire était prêt à traverser l'océan vers des eaux sûres près de Gaza pour aider à soigner et à fournir des services de santé aux victimes de guerre palestinienne. Cependant, la confirmation que le navire partira aux eaux proches de Gaza attend toujours l'autorisation du gouvernement égyptien. Selon le commandant du navire, le colonel Bayou El Arish, le point de collecte de l'aide à Gaza, ainsi que l'endroit le plus proche pour entrer à Gaza, à la frontière de Rafah, se trouve dans la région du Sinaï en Égypte. Commandant du KRI, Dr. Ajiman Wedioningrat, a déclaré jeudi à Jakarta que tous les composants du navire, y compris le moteur, avaient été vérifiés lors de l'accostage au chantier naval PT PAL à Surabaya, Java de l'Est. Au même endroit, KRI, Dr. Ajiman, a également été peint entièrement en blanc, étant donné que le navire effectuait une mission humanitaire en tant qu'hôpital auxiliaire lorsqu'il était amarré près de Gaza. Changer la couleur du navire en blanc est conforme aux dispositions internationales, à savoir la Convention de Genève et le Manuel de San Ramon, selon lesquels les navires hôpitaux destinés aux missions humanitaires doivent être peints en blanc afin qu'ils ne deviennent pas la cible des tirs de combattants en guerre. Si le gouvernement égyptien autorise l'Indonésie à envoyer au KRI Dr. Ajiman en tant que navire hôpital auxiliaire, aux eaux sûres près de Gaza, ce voyage était la première mission du KRI Dr. Ajiman à traverser l'océan et quitter les eaux indonésiennes. Jusqu'à ce que cette nouvelle soit écrite, KRI Dr. Ajiman Wedioningrat 992 repose jeudi sur le quai de quartier général du commandement militaire maritime de la marine indonésienne à Jakarta en préparation de l'envoi d'aide au peuple palestinien à Gaza ainsi que de la fourniture de services de santé. L'assistance de 80 camions actuellement chez le navire de la République d'Indonésie Dr. Ajiman, composé de 532 sacs de couches, 600 sacs de vêtements pour enfants, 700 sacs et 500 boîtes de vêtements pour adultes, 800 cartons de lait, 650 boîtes de biscuits, 1254 gallons d'eau minérale, 1700 cartons d'eau minérale, 460 cartons de médicaments, 450 sacs de couverture, 450 sacs de vestes et 470 cartons de nouilles instantanées. Si on les regroupe selon le conteneur, on obtient 4080 cartons, 2732 sacs, 500 cartons et 1254 gallons. Le projet d'envoyer un navire d'aide hospitalière a été annoncé pour la première fois par le ministre de la Défense Prabowo Subianto après l'envoi de la première phase d'aide de l'Indonésie à Gaza le 4 novembre 2023. Prabowo a déclaré que l'Indonésie se coordonnait avec les pays autour de Gaza de Palestine, y compris l'Égypte, pour la livraison de navires hôpital auxiliaires. L'Indonésie a également proposé à l'autorité palestinienne d'évacuer ses citoyens victimes de la guerre à Gaza afin qu'ils puissent être emmenés hors de Gaza et soignés dans plusieurs hôpitaux gérés par le TNI. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 3 décembre. On commence par le 3 décembre 1945, la bataille de Gedung Sate contre les Alliés. Le 3 décembre 1945, vers une heure de l'après-midi, le Gedung Sate à Bandung, Java de l'Ouest, a été attaqué de toutes parts par les troupes alliées néerlandaises. Au total, 21 employés du département des travaux publics ont défendu l'attaque de l'armée néerlandaise. Plusieurs personnes sont mortes dans la fusillade qui a duré 2 heures. Même si on a réussi à défendre Gedung Sate, l'Indonésie a perdu la vie de cette jeune. Ce bâtiment, dont le nom initial était V&W, a été défendu jusqu'à la dernière goutte de sang par des jeunes et des employés des travaux publics. Le 3 décembre est célébré comme la journée des travaux publics. La suite, le 3 décembre 1992, la Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée pour la première fois. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée par les Nations Unies depuis le 3 décembre 1992. La Journée internationale des personnes handicapées vise à faire progresser les droits des personnes handicapées et à protéger le bien-être des personnes handicapées. Développer également la sensibilisation du public aux problèmes liés à la vie des personnes handicapées et fournir un soutien pour améliorer la dignité, les droits et le bien-être des personnes handicapées intellectuelles. Le 3 décembre 1997, le traité d'Ottawa a été signé. La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, connue officieusement sous le nom de traité d'Ottawa. Le 3 décembre 1997, 123 pays l'ont signé et le 1er mars 1999, il est entré en vigueur. À ce jour, 164 pays soutiennent ce traité. Les îles Marshall ont signé, mais n'ont pas ratifié le traité, tandis que 32 pays des Nations Unies, dont les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, ne sont pas signataires, soit un total de 33 pays des Nations Unies ne sont pas partis au traité. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Jalananmu jauh. Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz.
Voice of Indonesia.
Voici mon Indonésie intitulée « Deux figures indonésiennes de l'esport sont apparues au sommet mondial de l'esport de IESF ». Deux personnalités féminines de l'écosystème indonésien de l'esport, Diana Sutrisno et Deborah Emanuela, sont apparues en tant que conférencières et récipiendaires de prix pour leur réalisation et leurs compétences lors du sommet mondial de l'esport de ISF 2023 qui s'est tenu à Busan, en Corée du Sud, les 28 et 29 novembre. La présence de ces deux Indonésiennes est une source de fierté pour l'Indonésie après que l'esport ait commencé à être pratiqué aux Jeux asiatiques de Guangzhou en Chine et aux SEA Games de 2023 au Cambodge. Cité dans le communiqué officiel du Conseil exécutif indonésien de l'esport ou en indonésien abrégé en PBSI, jeudi, Diana, qui est la trésorière générale du PBSI, est membre du Conseil d'administration de la Fédération internationale de l'esport ou IESF, a expliqué les efforts stratégiques de l'Indonésie pour atteindre un niveau mondial. Il a spécifiquement souligné les réalisations de l'Indonésie en remportant le titre de champion du classement général au 14e championnat du monde des sports ISF 2022 à Bali. Diana a déclaré que la clé du succès de l'Indonésie était la mise en œuvre d'une préparation intensive et globale. Commençant à avoir un impact positif, les programmes de développement de l'esport impliquant l'écosystème indonésien de l'esport ont permis à PBSI de faire participer les meilleures équipes d'esport à la sélection nationale et aux champs d'entraînement national. En dehors de cela, une autre chose est la préparation qui implique divers éléments de soutien pour renforcer la préparation technique et non technique, tels que la forme physique, la force mentale et psychologique ainsi que la santé et la nutrition. Pendant ce temps, la responsable des relations publiques et de la communication de PBSI, Deborah Emanuela, a reçu le prix de Esport Hall of Fame Category Community Championship lors du sommet mondial de l'esport 2023. Ce prix prestigieux a été décerné à Deborah comme une forme de reconnaissance mondiale pour son dévouement, travail acharné et engagement à renforcer et à améliorer les compétences de l'écosystème sport grâce à son implication dans PBSI, Global SVP Unipin et la fondatrice Luna Nera. C'est tout mon Indonésie.
Sadar ku telah sendiri. sosok seperti diri.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Purwokerto est la capitale du district de Banyumas. Cette ville n'est pas aussi célèbre que d'autres villes de la province de Java Central, mais le charme qu'elle offre est aussi bon que celui des autres villes de Java Central. Dans le district de Banyumas, il y a une attraction touristique naturelle appelée la route de Sarabadak, se trouve au village de Kemutuk Lor, sous-district de Baturaden, district de Banyumas, Java Central, ou à environ 14 km du centre de la ville de Purwokerto. L'emplacement de l'attraction touristique de la grotte de Sarabadak se trouve toujours au complexe Pancuran Pitu Baturaden. Pour aller à cet endroit, les visiteurs doivent descendre les marches le long du chemin qui présente une falaise de soufre sur le côté droit. Les falaises de soufre jaune vive sont clairement visibles lorsque les visiteurs suivent la route des conduites d'eau jusqu'à la piscine Ketanger PLTN qui offre une très belle vue. La route de conduite d'eau est également couramment utilisée par la population locale pour faire du commerce à l'emplacement de l'attraction touristique de Pancuran Pitu. La grotte de Sarabadak a sa propre particularité car à l'intérieur de la grotte se trouve un confluent d'eau chaude provenant de Pancuran Pitu et d'eau froide provenant de sources forestières. En dehors de cela, il y avait de la fumée blanche qui s'accumulait en ruisseaux chauds le long des larges falaises. Cette eau chaude contient du soufre qui coule pendant des centaines d'années sans s'arrêter et laisse derrière elle des dépôts qui donnent une couleur jaune aux parois de falaises et sont appelées falaises de soufre. Le flux d'eau chaude est également généralement utilisé par les touristes pour se tremper les pieds, ce qui, selon l'histoire, peut guérir toutes les maladies. Chers auditeurs, lorsque les visiteurs descendent les escaliers à cet endroit, les visiteurs verront également une vue sur la vallée verdoyante qui est très loin de cet emplacement de falaise. Il y a aussi des murs recouverts d'une épaisse mousse verte qui recouvre les falaises qui ne sont pas exposées aux flots d'eau chaude. Ici, les visiteurs peuvent profiter de la fraîcheur. Pour arriver à l'emplacement de la falaise verte, les visiteurs doivent descendre les escaliers jusqu'au pied de la falaise. Grâce à des routes bien aménagées et assez bonnes, l'accès aux falaises verdoyantes devient facile à accéder. Il y a une partie sombre et étroite à droite de la grotte. Les visiteurs ne peuvent donc pas y entrer. Dans cette section, d'habitude, beaucoup de touristes se tiennent devant l'embouchure de la grotte pour jouer dans les sources chaudes ou simplement prendre des photos. Bon, chers auditeurs, même si le voyage jusqu'à l'emplacement de cette attraction touristique est assez fatigant, les visiteurs vivent une expérience extraordinaire en raison de la beauté naturelle unique et magnifique.
Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Thank you.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est « L'exposition des collections rapatriées des Pays-Bas ». Après près de 2 ans de dialogue et de coopération entre l'Indonésie et les Pays-Bas ont finalement restitué les objets historiques indonésiens en août 2023. Ce retour au rapatriement marque une étape majeure dans l'augmentation de la préservation et de l'entretien du patrimoine culturel de l'archipel. Pour les personnes souhaitant voir les objets historiques rapatriés, ils peuvent visiter l'exposition qui se tiendra du 28 novembre au 10 décembre 2023 à la Galerie Nationale d'Indonésie. Ce programme est une collaboration entre la Galerie Nationale d'Indonésie, le Musée National d'Indonésie et Historia.id. Cette exposition sur le rapatriement offre au public l'occasion d'accéder à une collection d'artefacts et d'objets historiques retournés dans leur pays d'origine. Le directeur général de la culture, Hilmar Farid, a souligné l'importance de l'aspect production de connaissances à partir d'artefacts et d'objets historiques qui retournent dans leur pays d'origine. Cette exposition présentera 152 objets historiques provenant des résultats de processus de rapatriement antérieurs qui sont devenus des chefs d'œuvre des collections du Musée National d'Indonésie, comme la collection du prince Diponegoro et la statue de Prahnaparamita, ou bien des objets historiques qui sont arrivés cette année en Indonésie, comme la collection du temple Singosari, la collection Klungkung Keris et la collection du patrimoine royal de Lombok. Pour animer le programme de l'exposition, divers programmes publics seront également organisés, tels que des débats publics, des ateliers et des chasses au trésor. Pony Triana, en tant que commissaire de l'exposition et membre de l'équipe de rapatriement, a déclaré que cette exposition ne présente pas seulement des objets inanimés ou des artefacts anciens. Cette exposition présente également des histoires historiques et la signification de ces artefacts et objets. Voilà l'Indonésie en couleur.
Temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, mau menjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah. Bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya.
Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je vais parler d'une chanson de Sandy Sandoro. Sandy Sandoro, chanteur, auteur, compositeur et guitariste indonésien qui a commencé sa carrière musicale en Allemagne. Le 17 novembre 2023, il a sorti sa nouvelle chanson intitulée Tiba Tiba Cinta. Un sentiment passionnant mais aussi agréable doit être ressenti par toutes les personnes qui sont amoureuses. C'est ce que Sandy tente d'exprimer dans son dernier ouvrage. La chanson Tiba Tiba Cinta raconte de la présence de l'amour qui entre soudainement dans la vie de quelqu'un. À travers cette chanson, Sandy Sandoro tente de décrire la joie de tomber amoureux à travers des mots. Bon, chers auditeurs, voici Sandy Sandoro dont le titre est Tiba Tiba Cinta. Bonne écoute!
Kau cantik, sungguh manis, baru saja ku kenal. Di suatu momen yang tak biasa, suaramu yang indah di saat kau bernyanyi membuat jantungku berdebar. Kau bawa aku terbang, melayang indah bersama angan-angan.
juta rasanya. Betapa indahnya tiba-tiba aku jatuh cinta. Oh, berjuta-juta rasanya. Sama bintang-bintang, hey, yeah, yeah. Tiba, tiba aku jatuh cinta. Berjuta rasanya. Betapa indahnya. Tiba, tiba aku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu. Seakan tak mau hilang dariku. Oh, dariku. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Ini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun cintaku padamu tak pernah padam, tak pernah padam, takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Oh, ini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang
akui cintaku padamu tak pernah padam. Oh no, tak pernah padam. Api cintaku padamu, oh, 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 yeah. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang belum kau tahu, cintaku padamu tak pernah padam, tak pernah padam.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.